Il est 13h sur Radio Nekeluka, c'est l'heure de suivre la grande édition de la mi-journée avec Edalotine Diko. Eda, bonjour.
Bonjour Nina Verdiani Abode, bonjour à toutes et à tous. À la une, le calme revient à Bakouma dans la préfecture du Mbomou. Cependant, la circulation entre la ville et les autres localités est timide. Au sommaire également, cette réaction du groupe de travail de la société civile qui demande la libération des trois agents des travaux publics pris en otage depuis près d'un mois par des hommes armés dans la Vakaga. Il a disparu hier, son corps sans vie est retrouvé ce matin dans une fosse près du domicile familial. La famille de Stéphane Leroy parle d'un mystère autour de la disparition de cet enfant de 2 ans. Mondial 2022, encore 2 places à pourvoir pour les quarts de finale. Le Maroc et l'Espagne vont disputer un ticket et l'autre billet sera pour le vainqueur entre le Portugal et la Suisse.
Et d'un malgré un calme relatif, la circulation reste timide entre la ville de Bakouma et les autres localités du Mbomou.
Ceci après le drame des 1er et 3 décembre. Des hommes en armes avaient tué 4 personnes à 20 km de la ville de Bakouma et un jour après, 2 chasseurs avaient été retrouvés morts à 15 km de la ville. Cette situation a plongé la ville dans une psychose. Depuis lors, le trafic est difficile entre Bakouma et Bangassou. Conséquence, la hausse des prix de produits de première nécessité à Bakouma. Parfait, Teddy Komessi.
Oui, Eda, selon des sources locales que nous avons contactées à Bangassou ce matin, des trafiquants ont peur d'emprunter l'axe Bangassou-Bakouma, craignant des agressions des hommes en armes. Jean Balipio, notre correspondant dans la région, témoigne.
Selon certains usagers que nous avons rencontrés dans la ville de Bangassou, ils nous disent que ces groupes armés seraient évadés vers la ville de Nzako, Bangassou-Bakouma. Emprunter ce tronçon à l'heure où je vous parle, c'est quasiment difficile. Même les trafiquants ambulants ne peuvent pas emprunter l'axe de peur d'être kidnappés par ces coupeurs de route qui sont évaporés dans la nature. On ne sait là où ils se sont retranchés.
Cette réduction de la circulation sur cet axe a déjà un impact sur les prix de certains produits de première nécessité à Bakouma, à en croire cet habitant.
Nous vivons dans une grande peur après ce qu'il s'est passé. Les gens voyagent de moins en moins, ce qui fait que les marchandises qui se vendaient à 1500 francs se vendent maintenant à 2000. Même les petits articles comme le sucre, le savon et le sel se vendent cher. Nous demandons au gouvernement de voler à notre secours.
Un autre habitant de Bakouma souhaite que des hommes armés dont leur présence est toujours signalée à Zako soient délogés.
Les cas des agressions, ce sont ceux qui sont venus de Zako. Il y avait des commerçants qui ont acheté leurs marchandises en venant et puis ils ont tombé dans l'embuscade par rapport aux événements qui viennent de produire là. Nous demandons au gouvernement de libérer Zako pour que Bakouma soit en paix parce que le nœud de nos problèmes ici, c'est Zako.
À titre de rappel, le 1er décembre, des présumés éléments de l'UPC avaient tué 4 civils et blessé 4 autres à 20 km de Bakouma. 2 jours après, 2 chasseurs avaient été retrouvés morts, toujours à la périphérie de la ville.
Et puis presque un mois après la prise en otage de 3 agents du ministère des Travaux publics et de l'Agence des Nations Unies UNOPS dans la Vakaga, le groupe de travail de la société civile monte au créneau.
Pour le GTC, les commanditaires de ce kidnapping sont dans le gouvernement. Dans une conférence de presse hier, il a exigé la libération de ses otages. Paul Cresson Beninga, porte-parole du GTC, au micro de François Kossimé Palato.
Nous avons une manie dans ce pays qui est celle de trouver des palliatifs et de ne pas nommer les choses. Or, dans le cas de ces compatriotes qui ont été pris en otage dans la Vakaga, nous connaissons les responsables. Certains responsables sont membres du gouvernement. Ce groupe armé qui a mis la main sur ces 3 personnes, ces groupes armés obéissent à des ordres. Et ceux qui donnent ces ordres-là sont dans le gouvernement, sont des ministres dans le gouvernement, sont en grande partie des ministres ressortissants de la Vakaga. Il ne faut pas se voiler le visage. Le diagnostic a été mal fait. Je crois que le président de la République a été induit en erreur parce que dans son discours, il semble prendre pour responsable les forces politiques de l'opposition. Mais la réalité, ce n'est pas celle-là. Il faut nommer les choses telles qu'elles sont. Ce sont des personnalités qui, depuis 2013, ont décidé de prendre la République en otage. Tout le monde le sait, mais personne ne veut en parler. C'est le drame dans ce pays. Il faut les interpeller et leur demander de demander aussi à leurs hommes qui sont sur le terrain de libérer simplement les 3 personnes qui sont prises en otage. C'est de ça qu'il s'agit en réalité.
Paul Cresson Beninga, porte-parole du GTC, l'invité invité de Radio Ndekeluka de ce mardi. Vous suivrez l'intégralité de son intervention sur notre site www.radiondekeluka.org. Et parlant de ces otages, leurs ravisseurs demandent une rançon de 60 millions et exigent la libération d'un des leurs, Azor Khalid, en détention à Bangui. En octobre, 9 personnes avaient été prises en otage à Amdafok par des hommes armés. Elles avaient été libérées après le versement d'une rançon de 15 millions de francs cotisés par la communauté. Et aussi la semaine dernière, un ressortissant chinois a été pris en otage par des hommes armés. Il est jusque-là en captivité.
Un enfant de 2 ans, disparu hier, a été retrouvé mort ce matin dans une fosse.
Les faits se sont produits au quartier d'Amala dans la commune de Bégoua. Plus de précisions avec vous, Maxime Joël Lalaï.
C'était hier aux environs de 11h que Stéphane Leroy, 2 ans, a disparu. Les parents et les voisins ont recherché l'enfant, mais sans succès. C'est ce matin aux environs de 6h du matin que le corps de ce garçon a été retrouvé dans une fosse d'environ 5 mètres, non loin de la maison familiale. Cela paraît mystérieux pour Ludovic Gogo, oncle de l'enfant.
Ce qui s'est passé hier nous dépasse. C'est depuis 11h qu'on recherche mon neveu en vain. J'ai aussi fouillé dans le quartier, mais je ne l'ai pas retrouvé. C'est ce matin vers 6h qu'on m'a appelé pour me dire que l'enfant est retrouvé mort dans une fosse. Je pense que l'enfant a été tué, car il a le cou cassé.
Charlotte Bouyassi, voisine de la famille éprouvée, s'est dit dépassée et appelle les auteurs à mettre fin à cette pratique.
Tout se paye ici-bas. Ceux qui continuent de faire du mal aux enfants, un jour ils rendront compte à Dieu. Je demande vraiment aux auteurs de cette pratique de changer.
Il faut la changer.
Marie-Honorine Brahim, chef du quartier d'Amala sans logement, a affirmé que 3 enfants de 2 ans étaient portés disparus hier dans son secteur. Des enfants retrouvés morts après leur disparition, cela est récurrent ces derniers temps à Bangui.
Un autre drame, Eda, une fille de 24 ans est décédée vendredi après avoir été violée la veille.
L'acte est attribué à des militaires en patrouille si l'on se fie à ce que la victime a dit peu de temps avant sa mort. La mère de Christiana déplore cet acte et demande aux autorités de veiller à la protection de la population. Madeleine Kobo au micro de Christ Roi Jordan Badingbe.
Et quand je suis entrée, j'ai vu que l'enfant était déjà inconscient. C'est ce qu'elle a dit à mon neveu. Là. Elle lui a dit que ce sont les militaires de la patrouille. C'est ce qu'elle a dit. On n'était pas là, on ne savait pas. C'est après investigation le lendemain pour aller voir si elle était malade. Les gens m'ont dit non, hier elle était ici dans le marché. C'est après qu'elle est partie voir la course des pirogues. Hein? Les militaires sont là pour nous secourir. Lorsqu'ils font la patrouille là, s'ils trouvent quelqu'un, ils peuvent bien aider cette personne à rentrer chez lui. Ou si c'est un bandit, automatiquement ils doivent réagir en tant qu'un bandit. Mais une simple fille, une simple dame, même si l'heure de couvre-feu était déjà effective, c'est pas avec la violence. Hein? Mais pourquoi cet état de choses?
La réaction des organisations féminines n'a pas tardé. Le réseau africain des femmes pour le leadership, Aulin, demande l'ouverture d'une enquête sur ce viol. Chantal Solange-Toabina, vice-coordonnatrice de Aulin au micro de Andia Villa-Bissayou.
À notre grande dame, on a appris que cette jeune dame qui a été violentée et violée et ensuite qui a trouvé la mort, ce sont les porteurs de tenues qui ont commis cet acte ignoble. Que les auteurs de ces actes ignobles soient traduits devant la justice. La justice doit se saisir de ce dossier pour faire dire la loi. Le président de la République a fait des violences basées sur le genre sans cheval de bataille. Mais si aujourd'hui, c'est des porteurs de tenues comme nous l'avons suivi, si c'est vrai, vraiment, je suis désolée. C'est un défi au président de la République qui fait de la violence basée sur les genres sans cheval de bataille. En tant qu'humain, on ne peut pas se permettre de faire du mal à son prochain. Les gens qui commettent ce genre de pratiques-là, de viol, si on retourne dans leur camp, on viole leur fille, on viole leur femme, comment ils vont prendre cela? Je demande à toutes ces personnes qui pratiquent ce genre de pratique-là, de changer.
Le journal se poursuit. Et la direction à présent Bria dans la Haute-Coteau. Certains bénéficiaires du projet d'appui aux communautés affectées par le déplacement PACAD se plaignent du déroulement des opérations de paiement de 8000 bénéficiaires lancées le 28 novembre dernier.
Ces bénéficiaires déplorent la perte de leur argent avant le retrait et demandent aux responsables du projet de leur apporter une solution. Le point avec Gasmala Mustapha.
À en croire ces bénéficiaires mécontents, ils sont près d'une dizaine à avoir ces difficultés dès le début de l'opération. La somme de 50 900 francs envoyée sur leur compte Telecel Monnaie, qui représente le paiement de deux trimestres d'aide apportée à ces vulnérables, disparaît avant les opérations des retraits. Certains expliquent comment cela se passe.
50 000. Encore.
Nous avions reçu le message d'un montant de 50 000 francs. Quand nous sommes passés à l'agence de Telecel, on nous dit qu'il n'y a pas d'argent. On ne nous fait que au lit dans la farine.
Nous avions fait longtemps la queue et après le personnel de Telecel nous fait savoir que quelqu'un a retiré l'argent dans nos comptes et pourtant nous gardons jalousement nos téléphones selon les consignes qu'ils nous ont données. On ne sait qui a retiré l'argent. Personnel nous a dit que la direction à Bangui lui a précisé que c'est quelqu'un d'ici qui a retiré l'argent pour transférer dans le compte de son frère qui habite le quartier Yangato à Bangui et ils vont bloquer son compte. Ils nous avaient demandé de passer vendredi. Mais quand nous y sommes, il n'y a pas de suite. Ils ne font que gronder sur nous.
Nous avons des enfants à nos charges. Jusqu'ici, on n'a pas de nouvelles sûres. Entre-temps, les autres sont déjà servis.
Jean-Marie Tchanga, coordonnateur du projet PACAD à Bria, dit être au courant de tous ces problèmes rencontrés. Il promet rendre compte à l'hiérarchie afin d'y apporter des solutions.
On a fait un constat, j'en tiens compte, je vais communiquer ces numéros-là à la hiérarchie, précisément au département de l'action humanitaire. Dans ce cas, l'unité technique, le point focal, va examiner pour pouvoir entreprendre une démarche pour pouvoir mettre la main sur ce voleur-là. Nous n'allons pas rester bras croisés. Nous allons déployer des efforts pour pouvoir décanter cette situation-là.
En plus de ces problèmes de détournement d'argent pour les uns, d'autres bénéficiaires font aussi face aux problèmes de SIM bloqués ou encore comptes bloqués qui retardent également les retraits de leur argent. Bria, Gasmala Mustapha, Radio Ndekeluka.
Actualité africaine en bref, le bilan des affrontements entre le M23 et les forces armées congolaises au Nord Kivu est revu à la hausse.
Au cours d'une conférence de presse hier en République démocratique du Congo, les ministres de l'Industrie et de la Communication ont donné un nouveau bilan de massacre au Nord Kivu. Au lieu d'une centaine de décès, le bilan officiel fait état de 272 morts selon les autorités. Un massacre attribué aux rebelles du M23 qui mènent depuis plusieurs mois une offensive dans cette partie du Congo. La page sport, c'est une présentation de Claire Assambadenga. Claire, bonjour.
Bonjour à vous, Eda Lotindiko. Confort d'écoute à tous.
Commençons les sports avec la poursuite de la Coupe du Monde FIFA 2022 au Qatar.
Oui, Eda, les deux derniers matchs des huitièmes de finale se jouent aujourd'hui à 16h. Le Maroc joue sa qualification devant l'Espagne. De nombreux centrafricains s'alignent derrière les Lions de Dallas du Maroc pour ce match. À l'exemple de Jean-Jacques Ombi, directeur technique national à la Fédération centrafricaine de football. Il souhaite la victoire du dernier représentant africain dans cette Coupe du Monde. Il est avec Bienvenue Bello.
Que ça sera un match très, très, très engagé. L'esprit d'équipe d'abord doit régner. Ensuite, éviter de jouer par rapport au public. Là, il faut s'engager à 100% pour être qualifié. J'ai confiance au Maroc. Ils ont les atouts, que c'est la détermination qui reste et l'expérience également. Je me dis souvent que nos équipes, à chaque fois, dans les premières phases, jouent mieux, mais à la seconde, ils ratent. Ça nous permet de vérifier et de corriger les erreurs afin qu'on puisse accéder peut-être à une demi-finale de la Coupe du Monde. Nous avons des éléments. Et en Europe, les trois quarts de nos joueurs font la force de équipes européennes. Mais pourquoi pas au sein de l'équipe, leurs propres équipes n'arrivent pas à faire la différence. C'est un défi que nous avons relevé et nous souhaitons vraiment une très bonne chance au Maroc. Je crois que c'est l'esprit d'équipe qui va plus se régner et jouer avec détermination afin de gagner ce match. Éviter de jouer pour le public. Ça dépendra du système de jeu, ça dépendra du classement. Le coach a une mission, c'est de galvaniser son équipe et puis là, ils peuvent aller loin. Mais si ils n'arrivent pas vraiment à déceler les erreurs des autres équipes africaines, je crois qu'ils n'iront pas loin. Comme j'ai confiance.
Après Maroc-Espagne, il y aura à 20h le duel entre le Portugal et la Suisse. Hier, après prolongation, la Croatie a éliminé le Japon au tir au but 3-1. À la fin du temps réglementaire, le score était d'un but partout. Le Brésil a battu la Corée du Sud 4-1. Pour le moment, les Pays-Bas, l'Argentine, la France, l'Angleterre, la Croatie et le Brésil ont déjà validé leur ticket pour les quarts de finale.
Claire, football toujours, tournoi sous-régional de la zone UNIFA qui ne reste que deux jours pour le coup d'envoi des matchs à Brazzaville au Congo.
Effectivement, les fauves de moins de 20 ans sont bien arrivés à Brazzaville. Les Centrafricains se portent bien et sont prêts pour la compétition. À suivre la réaction du sélectionneur Sébastien Gâteau dans nos prochaines éditions. La RCA va donc affronter la RDC, le Cameroun et le Congo, pays hôte du tournoi. Pour leur premier match, les fauves vont jouer face au Léopard de la RDC le 8 décembre au stade Alphonse Massamba-Déba de Brazzaville. Le tournoi de l'UNIFAC est qualificatif à la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. Seuls deux pays seront qualifiés à l'issue de la compétition. compétition qui se déroulera du 8 au 14 décembre. Toujours dans le cadre de ce tournoi de l'UNIFA-KEDA, deux arbitres centrafricains sont retenus pour officier les matchs. Il s'agit de Merveille Melvin Mandekouzou et Oscar Seringapou.
Ainsi prend fin ce journal préparé par toute l'équipe de la rédaction. Merci à vous de l'avoir écouté. Tout de suite la version en sango.